France Inter.
France Inter. Dorothée Barba.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dernier jour en Loire-Atlantique pour le jeu des 1000 euros et pour les carnets de campagne. Avec aujourd'hui encore dans les carnets, deux initiatives citoyennes. D'abord un syndic de copropriété qui essaie d'exercer cette activité de façon différente des autres, plus respectueuse de la planète notamment. Et ensuite une association à Pornic qui accompagne les familles pour donner aux enfants le goût de lire. Cela passe par de la lecture à voix haute, des histoires à raconter, des animations en tout genre, car comme l'écrit Daniel Pénac, le verbe « lire » ne supporte pas l'impératif. Soyez les bienvenus.
Carnet de campagne, le journal des solutions.
Tous les secteurs d'activité, en théorie, peuvent être abordés par le prisme de l'économie sociale et solidaire, dont l'ambition est de concilier activité économique et équité sociale. Mais les syndics de copropriété faisaient partie des manques. Eh bien, ce manque a été comblé à Nantes par Partie Commune, premier syndic issu de l'ESS, l'économie sociale et solidaire, dont les ambitions écologiques sont également très fortes. Bonjour Thomas Maréchal.
Bonjour.
Vous êtes le cofondateur de Partie Commune. Alors, on va commencer peut-être par rappeler ce qu'est un syndic de copropriété. C'est une entreprise qui administre les parties communes des immeubles. Elle est choisie et financée par les copropriétaires.
Oui, tout à fait. Il faut passer en assemblée générale. Donc, c'est toujours une désignation et un vote majoritaire qui permet de choisir un syndic de copro.
Qu'est-ce qui différencie votre syndic des autres, alors ?
Tellement de choses. Comme vous l'avez dit un petit peu en introduction, c'est que nous on a créé en fait notre syndic de copropriété sous l'aune de trois piliers. Un premier pilier avec une visée écologique, on va dire, de notre métier. Un deuxième autour d'une visée plus éthique de la pratique de notre métier. Une dernière autour de la facilitation du vivre ensemble. Et en fait, ça venait à l'origine du fait que en 2020, en fait, quand je m'intéresse à la question des syndics de copro, je vois aucune proposition sur ces domaines-là. Et c'est comme ça que je me suis lancé.
Vous êtes journaliste de formation, Thomas Maréchal. Comment vous êtes-vous retrouvé à créer un syndic de copro?
Ouais, alors j'ai peu exercé en tant que journaliste. J'ai fait un peu de pige dans mes jeunes années. Ensuite, j'ai surtout été professeur de français langue étrangère. Et en fait, c'est par l'intermédiaire de mes parents qui sont repassés de la maison individuelle à une copropriété. Et eux ont eu, on va dire, un peu tous les problèmes qu'on imagine avec un syndic de copro. Et c'est comme ça que je me lance dans cette aventure.
Le reproche qu'on fait le plus souvent, dites-moi si je me trompe, hein, aux syndics de copropriété, c'est qu'ils ne répondent jamais.
Ouais, c'est la question de la disponibilité. Vraiment, c'est un des gros enjeux, on va dire, du syndic de copro. Et c'est comme ça que, on va dire, se sont lancés aussi toute une vague de néo-syndics par Internet et qui promettaient justement aussi, en fait, par des outils peut-être un petit peu plus modernes que ceux utilisés jusqu'à présent, plus de disponibilité et plus de réactivité.
Et vous, alors, vous êtes comment sur ce volet disponibilité, réactivité?
Nous, on a eu la chance, en fait, de lancer notre activité courant 2022. Donc, on a pu choisir, nous, des outils très modernes, finalement, donc qui répondent à ces critères-là. Et une des choses qui nous différencie énormément des autres syndics de copro, c'est que, étant une entreprise de l'économie sociale et solidaire, en fait, on a limité le portefeuille de gestion de nos gestionnaires. Donc, chez Syndic Partie Commune, un gestionnaire, il va gérer 35 copropriétés et environ 700 logements, à peu près. Et donc, ça, c'est ce qui permet une grande disponibilité et une grande réactivité. Pour vous donner juste la moyenne nationale, en France, un gestionnaire de copro gère en moyenne 50 copropriétés et environ 1000 appartements. Donc, ça fait des rythmes qui sont très élevés et très effrénés pour les gestionnaires de copropriété. Et on a tendance, nous, à dire assez souvent que c'est pas tant que le gestionnaire de copro, il travaille mal, mais c'est surtout qu'il est très pressurisé, finalement, par son environnement et des sociétés, on va dire, qui ont un objectif lucratif. Et donc, du coup, on en met toujours plus sur le dos du gestionnaire et il n'arrive pas, finalement, à donner satisfaction et une réactivité suffisante. Et il est obligé de beaucoup trier parmi les urgences ou les différents projets.
Oui, il n'y a pas d'objectif lucratif chez Partie Commune. C'est sans doute la principale différence. Pas d'actionnaire à rémunérer non plus.
Pas d'actionnaires rémunérés, non. Et comme on est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, du coup, si on engrange des bénéfices, ils sont réinvestis dans le développement de l'entreprise ou alors ça nous sert, nous, à donner un certain confort de travail à nos gestionnaires sur place en augmentant les salaires ou en donnant des conditions de travail meilleures.
Reste à engranger justement des bénéfices. Comment se porte l'entreprise aujourd'hui?
L'entreprise se porte très bien puisque du coup on se développe, on ne cesse de se développer. On est né en 2022, du coup, comme je disais, en mai 2022. Aujourd'hui, on compte 85 copropriétés en gestion. Ça fait un chiffre d'affaires d'environ 300 000 euros. Ce qui n'est pas gigantesquissime, mais ce qui commence à être quelque chose de significatif déjà.
Comment se manifestent vos ambitions écologiques chez Parties communes?
Alors, sous plusieurs points. Nous, déjà, on essaye d'être une entreprise exemplaire. Donc, on se déplace qu'à vélo et on a choisi, nous, scrupuleusement, l'ensemble des prestataires qui travaillent avec nous. Et ensuite, dans les copropriétés, ça va être d'apporter, en fait, une sensibilisation auprès des copropriétaires, notamment sur le choix des entreprises. C'est-à-dire que souvent, en copropriété, on fonctionne sur un arbitrage de prix. C'est-à-dire qu'on va avoir 1, 2, 3 devis et on va choisir, du coup, le prestataire le moins cher. Et nous, on essaye d'apporter, justement, des informations sur les impacts écologiques et les impacts sociaux des entreprises qui présentent des devis pour aller au-delà d'un arbitrage uniquement orienté autour du prix.
Oui, parfois c'est tout de même le prix qui l'emporte sur les décisions. Par exemple, quand il faut, changer une fenêtre dans les parties communes de l'immeuble, vous proposez la solution la plus écologique, mais c'est parfois tout de même la solution la moins chère qui est privilégiée.
Nous, in fine, syndic de copropriété, c'est être mandataire de l'ensemble des copropriétaires. Donc nous, in fine, nous n'avons qu'un rôle de conseil. On ne peut jamais choisir. Donc c'est toujours l'Assemblée Générale qui est décisionnaire. Par contre, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire on essaye d'apporter une sensibilité et d'aller au-delà de juste un arbitrage sur le prix. Nous, à Nantes, on a la chance typiquement d'avoir beaucoup d'entreprises qui travaillent à vélo. Et donc, nous, on a des menuisiers à vélo. Donc si c'est juste changer une fenêtre, typiquement, on va pouvoir proposer des menuisiers à vélo qui sont des artisans et qui souvent arrivent à être compétitifs en termes de prix. Plus écologique en copropriété ne veut pas forcément toujours dire plus cher.
Voilà, et cet engagement écologique passe aussi par les rénovations énergétiques que vous avez engagées sur un tiers des immeubles dont vous avez la charge, avec par exemple de l'isolation par l'extérieur ou des changements de toiture ou de ventilation. Qu'est-ce qui vous rend fier, Thomas Maréchal?
Qu'est-ce qui me rend fier? Je dirais d'avoir réussi, d'avoir transformé l'essai. C'était un pari, syndic partie commune, c'est-à-dire de vraiment proposer une version très iconoclaste du métier de syndic de copropriété, en le faisant à vélo et en portant des vraies valeurs, j'ai envie de dire, d'économie sociale et solidaire. Je pense qu'il y en a beaucoup qui nous ont pris pour des fous furieux. Puis aujourd'hui, on a quand même bien grandi, on est très, je sais pas si connu, mais en tout cas respecté de la part de nos confrères qui nous prennent un peu moins pour des fous. Alors ils font pas le métier comme nous, ça c'est sûr, mais ils voient qu'on est investi et qu'on représente aussi bien ce métier-là, mais avec une approche différente. Donc ça c'est d'avoir réussi ce pari-là, c'est plaisant.
Et d'ailleurs, vous avez des clients en dehors de Nantes aujourd'hui.
Ouais, tout à fait. On est très identifié dans le milieu de l'habitat participatif. Ce qui fait que on nous a sollicité partout en France pour être syndic d'habitat participatif et on a accepté quelques propositions. Donc du coup on a élargi un petit peu le champ d'intervention de syndic partie commune parce qu'aujourd'hui on a quelques copros à Saint-Nazaire, à Angers. Alors ça reste assez proche de Nantes encore, mais on a une copro à Montpellier, on a une copro aussi à Caen. Donc c'est sur des projets très spécifiques qui nous tiennent à cœur, sur lesquels justement on peut vraiment mettre notre patte et faire en sorte que les gens puissent vivre en habitat participatif exactement comme ils le souhaitent et en accord avec leurs valeurs.
Syndic, partie commune, c'est donc à Nantes. Merci beaucoup Thomas Maréchal.
Merci à vous.
Et bonne journée, au revoir.
Une bonne journée.
France Inter. Carnet de campagne.
Lire ensemble, grandir ensemble, voilà une belle ambition. C'est celle de l'association La Clé des Familles qui œuvre dans le pays de Ray, autour de Pornic. Régine Barra-Servenet, présidente de cet asso, est au bout du fil. Bonjour.
Bonjour Dorothée.
La clé ici est un acronyme, hein. Ce sont les quatre activités de votre association. C comme culture, L comme loisir, E comme éveil, F comme formation. Vous organisez de nombreuses activités pour les familles grâce à des bénévoles et vous portez cette année le projet Lire ensemble, grandir ensemble, dont l'ambition est de diffuser le goût de la lecture. Alors pourquoi est-ce qu'il est essentiel, selon vous, de mettre des livres entre les mains des enfants dès le plus jeune âge et de leur créer des habitudes avec le livre?
Ce n'est pas moi qui ai inventé le concept depuis des années, on en parle. Et nous, dans notre association, toute activité, que ce soit motricité, activité créative, il y a le livre qui est le lien. À chaque fois, on raconte une histoire, une comptine, on fait une chanson, enfin, on essaye de les ancrer dans le récit, même tout petit. Pour nous, c'est vraiment très, très important que la famille partage ce bonheur d'écouter et de chanter, de rêver ensemble. Quoi.
Alors, quelles sont les activités, les événements prévus autour de ce projet Lire ensemble, grandir ensemble? Vous nous donnez quelques exemples?
Oui, on a quatre axes. Le premier, c'est bon, d'abord la lecture partagée dans toutes nos activités. Le deuxième, c'est de créer un Leporello. On a choisi le Leporello, c'est un livre accordéon. Et on trouvait que ce livre-là était cette forme-là était intéressante pour partager avec son enfant ou avec un groupe d'enfants un récit. On va donc construire avec les familles des Leporello qui seront exposés au mois de juin. Un autre axe, c'est de sensibiliser les parents, les grands-parents, les éducateurs à tout ce qui peut exister en littérature de jeunesse. C'est très très long. Il y a beaucoup de choses. On aura peut-être 6 mois ne suffiront pas, mais si on arrive à semer quelques petites graines, alors là, on sera vraiment très très heureux. Et un axe très important aussi, c'est de mettre en relation un professionnel de la littérature de jeunesse que nous avons choisi sur le Pays de Ray, qui habite le Pays de Ray, qui s'appelle Laetitia Le Sceau, et qui va partager quelques matinées avec les familles.
Laetitia Le Sceau, c'est la co-autrice d'un livre pour enfants que j'ai lu environ 40 000 fois, qui s'appelle La culotte du loup. Très grand bouquin jeunesse. C'est une artiste locale.
Oui, elle était de Nantes et puis depuis peu, elle s'est installée à Sainte-Pazanne. Donc, elle se rapproche de nous, en fin de compte, à Pornic-Clap. Voilà, on est très contents de la recevoir. Elle a l'air super sympa et elle a envie de partager justement ces moments avec les familles. Ce qui n'est pas facile, hein, en tant qu'illustratrice, de travailler avec des familles de jeunes enfants.
Elle est sans doute plus habituée à la solitude de son atelier et là, elle va se retrouver au milieu des enfants.
Oui, et des enfants assez remuants, parce que lors de nos activités, on peut pas dire que ce soit le calme plat, mais c'est ça qui fait la vie de nos activités. Et il y a un dernier axe qui sera une exposition de photos de famille, c'est-à-dire qu'on va demander aux familles de se photographier en lisant, dans n'importe quel lieu, dans n'importe quel, que ça soit sous une couverture, que ça soit sous une table, pour montrer que la lecture, elle est partout, elle n'est pas que assise sur un canapé, et qu'on peut lire partout. Et on exposera ces photos.
Oui, parce que les enfants ont cette habitude de souvent lire dans des positions saugrenues. Ça peut donner de belles photos.
Ben oui, ça peut donner de belles photos et puis surtout des moments partagés parce que les familles vont essayer de créer des scènes pour que ça soit entre guillemets original et que les familles soient aussi très contentes de leurs œuvres parce que ça sera des œuvres puisqu'elles vont être exposées, voilà, et qu'il reste un souvenir de ce moment partagé.
Est-ce que votre association a besoin de plus de bénévoles, dites-moi?
Ah, vous avez déjà vu une association qui refuse les bénévoles? Non, on en a besoin. On a besoin parce que plus on a de lecteurs, plus on a de bénévoles qui veulent accompagner nos familles et plus nous pourrons être disponibles, apporter beaucoup plus de choses. Puis il ne faut pas avoir peur, on n'a pas besoin de compétences de lecteurs. Moi, j'ai l'habitude de former les personnes, donc à force, les personnes vont raconter. Enfin, notre équipe est géniale, qui est notre équipe de passeurs de rêves. On chante petits et grands à chaque activité. Donc, il ne faut pas avoir peur en disant « moi, je ne sais pas raconter ». Si on a tous un talent, un peu caché, mais il faut le sortir, voilà.
Les passeurs de rêves, c'est comme ça que vous appelez les bénévoles chez vous?
Alors, les passeurs de rêve, c'est le groupe qui raconte partout, à tous les endroits où l'on peut raconter avec dès qu'on a un livre, qu'on a un enfant ou un adulte ou une famille, on raconte.
Qu'est-ce qui vous rend fière, Régine ?
Ben, ce qui m'en rend fière, c'est que quand on a commencé l'association, on ne savait pas où on allait, mais c'est tellement enrichissant d'être avec les parents et de voir les yeux des parents quand ils découvrent que leur enfant, ben, il s'éclate, il aime telle histoire, il partage avec un autre, il parle avec les autres. C'est un bonheur pour tous les bénévoles, dont moi-même.
Lire ensemble, grandir ensemble, un projet porté par la Clé des familles à Pornic et dans le pays de Ray en général. Merci beaucoup Régine.
Merci Dorothée.
Et à bientôt. Bonne journée.
Oui, merci.
Et continuez à nous écrire, chères auditrices et auditeurs, si vous voulez signaler des initiatives et des gens géniaux partout en France. Nous lisons tous vos messages, je le rappelle, et ce sont notamment les Alpes de Haute-Provence qui nous intéressent. Le département 04 sera bientôt à l'honneur avec des initiatives à Digne-les-Bains, à Manosque ou encore à Barcelonnette. Un grand merci à l'équipe des carnets, Sophie Hoffmann, Lucie Grandet-Lavigne et Jade Bellag à la préparation des émissions. Mathias Alléon à la technique.